VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, midi à Dakar, 13h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. Élections présidentielles et législatives du samedi au Nigeria. Le groupe séparatiste qui réclame l'indépendance du Biafra dans le sud-est du pays a créé la surprise ce vendredi en levant sa menace de boycott du scrutin dans sa région. Notre chef suprême, Mazin Nnamdi Kanu, a suspendu l'appel au boycott des élections au Biafra, a déclaré aujourd'hui l'IPOB, le mouvement autochtone des peuples du Biafra, préconisant l'indépendance du peuple Igbo, qui représente la majorité de la population locale. Dans un tweet publié jeudi soir, le chef du mouvement indépendantiste Nnamdi Kanu a souligné que les conditions ont été remplies, sans donner plus de précisions sur les conditions auxquelles il fait référence. Pour sa part, Prince Kanu, le frère de Nnamdi, a affirmé à l'AFP que des détails sur les conditions en question seraient révélés bientôt. Le leader de l'IPOB n'a fait aucune déclaration sur le candidat de son choix à la présidentielle. Mais le président Muhammadu Buhari, qui brigue un second mandat, est depuis longtemps un ennemi juré du mouvement indépendantiste Biafra. Élection au Sénégal maintenant. Le gouvernement sénégalais a minimisé jeudi l'impact des appels de l'ex-président Abdoulaye Wade à empêcher la tenue du scrutin présidentiel du 24 février. Le point avec Eric Manirakiza.
Rappelant que le pays a l'habitude d'organiser les élections, le ministre de l'Intérieur, Ali Nguyen Diaye, a indiqué que le Sénégal est une république qui marche. Dans ce pays-là, on ne peut pas et on ne peut plus truquer des élections à tir assuré. Le Sénégal a déjà connu deux alternances en 2000 et en 2012 et aucun coup d'État sauf les campagnes électorales souvent émaillées de violence. Revenu la semaine dernière à Dakar, Abdoulaye Wade a appelé à empêcher l'élection du 24 février qui, selon lui, est verrouillée pour assurer la reconduction de Macky Sall. Âgé de 92 ans, M. Wade a convié ses partisans à brûler le matériel électoral. Il a de nouveau appelé à s'attaquer au bureau de vote. Le gouvernement condamne cette attitude permanente de subversion, d'appel à la violence, avertissant ceux qui tenteront de perturber la libre expression du suffrage des Sénégalais qui seront punis conformément à la loi. Le ministre de l'Intérieur a souligné que l'ex-président était coutumier de telles menaces. Il a rappelé qu'en 2015, Maître Wade disait qu'on n'allait pas juger son fils, que le pays allait être à feu et à sang. Son fils Karim Wade a été jugé, condamné, emprisonné et rien ne s'est passé, a précisé le ministre Ndiaye.
Au Burkina Faso, plus de 1 million de personnes ont besoin d'assistance humanitaire. Le bureau onusien de coordination des affaires humanitaires, OCHA, a lancé un plan d'urgence pour mobiliser 100 millions de dollars. Plus de détails avec Bagassi Koura.
1 200 000 personnes ont urgemment besoin d'assistance au Burkina Faso. Le pays fait face à des urgences sans précédent du fait de la persistance de l'insécurité dans les régions du centre-nord, de l'est et du nord, selon un communiqué conjoint d'OCHA et du gouvernement burkinabé. Nous devons agir maintenant et travailler ensemble pour empêcher cette crise de devenir incontrôlable, a déclaré la coordonnatrice résidente des Nations Unies, Metsi Maketa. Le gouvernement et l'agence humanitaire de l'ONU ont lancé un plan d'urgence pour mobiliser 100 millions de dollars pour fournir de la nourriture, de l'eau, des abris, des soins de santé, de la protection à 900 000 personnes les plus touchées par la crise. La ministre burkinabé chargée de l'action humanitaire, Hélène-Marie Laurence Ilboudo, a lancé un appel pressant à tous les partenaires. L'insécurité croissante a déjà forcé 83 000 personnes à fuir leur maison à la suite de violentes attaques et des affrontements intercommunautaires.
En Guinée-Bissau, les enseignants ont repris jeudi leur mouvement de grève pour réclamer le paiement d'arriérés de salaire à un mois des élections législatives qui doivent sortir le pays de la crise. Le point avec Ekia Badou.
À Bissau, la capitale, les écoles publiques du primaire et du secondaire ont été fermées. Par précaution, certaines écoles privées ont demandé à leurs élèves de rester à la maison. Après 4 mois de grève, 3 syndicats d'enseignants avaient interrompu leur mouvement le 9 janvier après avoir obtenu des garanties du gouvernement que les arriérés de salaire seraient payés et une nouvelle grille salariale. Ces promesses n'ont pas été tenues et les syndicats ont déposé un préavis de grève de 27 jours. Ce débrayage intervient peu avant le début, demain samedi, de la campagne pour les législatives du 10 mars censée sortir le pays de plusieurs années de crise. 20 des 21 partis politiques ont signé hier un code de conduite dans lequel ils s'engagent à recourir aux voies légales pour contester les résultats et à éviter les attaques verbales ou l'utilisation de la force pendant la campagne. Pour Fodé Karambassania, un membre de la société civile, ce pacte ne prévoit pas de sanctions en cas de non-respect des engagements.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Conflit au Tchad, le ministre tchadien des Affaires étrangères a fourni aux membres du corps diplomatique la version du gouvernement sur les attaques françaises contre une colonne de rebelles dans le nord-est du pays. De N'Djamena, notre correspondant André Kondbajinga fait le point.
Le chef de la diplomatie tchadienne a fait le bilan de l'attaque de la position des forces gouvernementales le 2 février par une colonne de plusieurs véhicules de rebelles venant du sud libyen. Pour Mohamed Zen Chérif, ce sont des terroristes qui ont tenté de faire une incursion en territoire tchadien et dont l'opération conjointe menée par l'armée de l'air tchadienne appuyée par l'aviation française a permis de les anéantir.
Il ressort du bilan exhaustif qu'une quarantaine de véhicules tout-terrain ont été détruits et 19 véhicules dont 16 équipés d'armes lourdes ont été récupérés. D'importantes quantités d'armes légères et de munitions de tout calibre ont été saisies. Environ 250 éléments de la colonne ont été capturés, dont 6 de leurs principaux responsables.
L'opposant historique du régime au pouvoir, Yurongar Ngarledji, se dit stupéfait d'entendre les autorités tchadiennes dire que les 250 rebelles sont capturés alors qu'ils se sont rendus volontairement parce qu'ils n'ont rien à manger.
Mais c'est de bonne guerre. Le gouvernement veut sauver la face parce que ils ont fui devant ces prétendus djihadistes alors que ce sont des Tchadiens qui ne sont pas d'accord avec la gouvernance d'Idriss Déby qui se sont organisés pour pouvoir prendre le pouvoir par la force. Parce que Déby lui-même n'a-t-il pas dit « Moi, je ne suis pas venu avec le biais d'Air Afrique, donc celui qui veut prendre le pouvoir entre mes mains, il n'a qu'à utiliser la même méthode. Pourquoi il se plaint aujourd'hui ?»
Pour Mbernoudi Sossène, coordonnateur du mouvement citoyen pour la préservation des libertés, depuis l'escalade de la violence dans le nord-est du Tchad, le gouvernement fait des déclarations à l'emporte-pièce souvent contradictoires.
Tantôt il parle terroriste, tantôt de l'UFR, des effartiments. Mais toutes les guerres du Tchad, il n'y a que la Libye, le Soudan et autres qui servent de base arrière. Là, c'est connu. Dire que ces gens se viennent de la Libye, mais les gens ne nous disent rien de plus. Aujourd'hui, cette énième attaque remet sur le tapis la question de Diallo. Ça nous surprend que le Tchad, qui combat toute forme de terrorisme à l'extérieur, ne soit pas capable de juguler le mal et fait appel à la France. La France n'a aidé que ce régime.
Le Tchad est le premier pays à combattre les terroristes les plus redoutables du Nord Mali, aux côtés de la France, et donc il est normal qu'elle réponde à l'appel du Tchad dans cette situation, estime le chef de la diplomatie tchadienne, Mohamed.
La France n'a pas soutenu un régime, ni un parti, encore moins un président. Elle a aidé un État ami confronté à un ennemi organisé, armé et financé depuis l'étranger pour tenter de prendre le pouvoir par la force.
André Kondbajinga N'Djamena, VOA Afrique.
La lutte contre les djihadistes au Cameroun maintenant. Près de 200 anciens membres camerounais du groupe djihadiste nigérian Boko Haram sont volontairement rentrés dans leur pays depuis le Nigeria. Plus de précision avec John Lindon.
Originaire du département du Mayo-Sava dans l'extrême nord du Cameroun, 187 ex-djihadistes sont rentrés à pied du Nigeria voisin et se sont rendus aux autorités de Kolofata et Mémé. Ils ont été amenés à la base de la force mixte multinationale. La semaine dernière, environ 200 d'entre eux, dont des enfants de moins de 15 ans, avaient déjà été amenés au camp de Mora. Un millier d'anciens djihadistes sont rentrés au Cameroun depuis un appel en ce sens, lancé il y a un an par le président Paul Biya. Ils ne courent aucun danger et tout sera mis en œuvre pour les resocialiser, a déclaré Midi Yawa Bakari, gouverneur de la région. Un programme de désarmement, démobilisation et réinsertion a été mis en place pour leur permettre de reprendre une vie normale. Après les enquêtes pour s'assurer qu'ils ont définitivement rompu les liens avec Boko Haram, ces ex-djihadistes seront transférés dans la localité de Mouré, dans l'extrême nord, où un terrain de 13 hectares leur a été alloué.
Et pour terminer, actualité américaine, ici à Washington, le président Donald Trump doit déclarer ce matin l'urgence nationale pour pouvoir contourner le Congrès et obtenir l'argent que le chef de l'exécutif américain réclame pour financer le mur qu'il veut construire à la frontière avec le Mexique. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.